les jours, les mois, les années. Une nouvelle de l'écrivain Jan Lianke. Lecture proposée par Christine Fusarelli. Épisode numéro 7. Le cinquième soir, lorsque le soleil se coucha, la ténèbre tomba d'un coup. Monts et veaux furent recouverts d'une nuit sans lune ni étoile. Les arbres desséchés se débarrassèrent de la chaleur torride du jour. Goûtant à l'humidité, ils poussaient aussitôt de très légers soupirs d'aise, soyeux et veloutés. L'aïeul et son chien se tenaient à côté de la culture. L'homme laissait les feuilles lui taquiner le nez. Il ouvrait grand la bouche pour en aspirer les effluves. L'odeur de la céréale lui glissait dans l'intestin et jusqu'au bas-ventre. Pareil à une charrette qui traverse la route, la saveur roulait en lui. Alors il rentrait son ventre, bloquant ses intestins pour la retenir, la garder en lui. Il continua à aspirer ainsi de longues bouffées jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Il dit « L'aveugle, viens toi aussi, viens aspirer un peu de cette odeur, tu n'auras plus faim après. » Il l'appela à deux reprises, mais le chien demeurait immobile. L'homme le vit étendu sur la natte, comme paralysé, on aurait dit un tas de boue. En tendant la main pour l'attraper, il le fit sursauter de frayeur. Le ventre du chien saillait, gonflé comme une outre, la peau sèche, coupante comme une lame de couteau. L'aïeul tâta son propre ventre. Il découvrit d'abord une couche sèche et crasseuse qu'il gratta pour se nettoyer un peu, puis palpa. Il n'y avait rien sous la peau, un grand vide. Soudain, il sentit sous ses doigts une vertèbre. L'aveugle, dit-il, regarde, la lune est là. Dors, dors et tu n'auras plus faim. Les rêves peuvent tenir lieu de repas. Le chien se leva et se dirigea titubant vers la cabane. Ne grimpe pas, dit l'aïeul, dors là où tu es, économise tes forces. Le chien revint se coucher à l'endroit même qu'il avait quitté et ne bougea plus. Un fin croissant de lune se dégagea lentement de derrière un nuage. Une douce lumière se répandit sur la montagne. L'aïeul ouvrit les yeux, se mit à prier face à la voûte de tuiles bleues. « Seigneur du ciel, vais-je bientôt mourir? Donne-moi vite une poignée de grains. Laisse-moi vivre encore quelques jours. Laisse-moi vivre au moins plus longtemps que le chien. » Quand il sera mort, je trouverai un bon endroit pour l'enterrer, un endroit que les rats ne viendront pas piller, qu'il ne soit pas venu pour rien sur cette terre. Quand le chien sera mort, laisse-moi vivre encore jusqu'à ce que le maïs soit mûr. C'est pour lui que je suis restée. Tu dois me laisser vivre jusqu'à la récolte. Alors laisse-moi vivre encore jusqu'à ce que la pluie tombe, jusqu'à ce que les villageois reviennent, que je puisse leur donner l'épi de maïs. C'est l'unique culture sur toute la chaîne montagneuse. Il priait, caressant d'une main les feuilles du pied de maïs, grattant de l'autre la crasse de sa poitrine pour la jeter à terre. Puis, au moment de dormir, il posa doucement les pieds sur le dos du chien, lui disant « Dors, Va, l'aveugle, dors et tu oublieras ta faim. » Ses paupières tombèrent enfin et il pénétra dans le monde des rêves. Tandis qu'il dormait profondément, ses pieds remuèrent sur le dos de la bête. Un bruit de pierre entrechoquée le réveilla brutalement. Les jappements du chien. L'aïeul s'assit, tendit l'oreille. De très faibles couinements lui parvenaient. Un bruit de pattes aussi. Toute une troupe de rats cavalait. Debout, à l'extérieur de l'abri de nattes, le chien aboyait en direction de l'arête montagneuse. L'aïeul sortit, lui tapota la tête, lui ordonna de rentrer sous l'abri pour veiller sur la culture. Le jour pointait à peine. La lumière de la lune éclairait encore faiblement et l'on pouvait sentir dans l'air une agréable odeur d'humidité. Il grimpa jusqu'à la cabane, s'accroupit face à l'arête montagneuse. Il respira d'abord une forte puanteur rouge sombre mêlée à l'odeur de la poussière soulevée. Il cligna des yeux, vit quelque chose glisser sur le chemin, une couche de nuages noirs filant vers le sud. Il redescendit. Il avait peur que les rats ne fassent soudain demi-tour pour venir droit sur la culture. À l'intérieur de l'abri, la plante verdoyait toujours, toute droite. L'aveugle dressa les oreilles. Tout en les caressant, l'aïeul dit « Surtout, n'aboie pas. Il ne faut pas attirer l'attention des rats sur notre habitation. Ils savent que là où il y a des hommes, il y a du grain. » À ce moment-là, le bruit d'une averse prochaine se fit entendre. L'aïeul tapota la tête du chien et se dirigea sans bruit à tâtons vers l'arête de la montagne. Arrivé là-haut, il vit surgir par intervalles une dizaine, une vingtaine de rats à la traîne qui longeaient la route vers le sud en poussant de petits cris perçants. Il ne parvenait pas à y croire. Sur ce chemin de terre dur comme du fer, il y avait maintenant une couche de poussière épaisse comme un doigt. Des rats pressés les uns contre les autres étaient passés par là, constellant le sol de traces de pattes. L'aïeul se tenait là, interdit. Il pensa « Mais où ont-ils bien pu aller ? » La sécheresse va peut-être durer indéfiniment. Il dit « Sans quoi, pourquoi déménagerait-ils ? » Est-ce qu'on ne dit pas que les rats ne craignent rien sauf le manque d'eau ? Qu'avec des planches et des nattes de paille, ils ne peuvent mourir de faim ? Les voilà maintenant qui partent tous en famille. Visiblement, la sécheresse va durer encore bien longtemps. L'aïeul réfléchissait. Sur le point de s'en retourner, il entendit confusément un bruit de gouttes de pluie venant du nord. Il savait que ce n'était pas la pluie, mais de nouveau des rats qui venaient. Son corps se contracta un court instant. De l'éminence où il était, à la faveur des rayons lunaires, il regarda au loin. Son sang se figea soudain dans ses veines. Il vit quelque chose franchir l'arête d'une montagne, puis se déverser vers le sud. Non pas une troupe de rats, mais des eaux en crue inondant le chemin. À l'avant de la vague, charriant des cris pourpres et noirs, les éclaireurs poussaient comme des hurlements de loups, tandis que l'arrière de la vague suivait, ondulant sur elle-même, produisant un son de pluie fine qui s'amplifiait au fur et à mesure de la progression, pour finir par rendre le bruit d'une violente averse. Des tas de rats bondissaient brusquement au-dessus de la mêlée, comme des bancs de poissons au-dessus de l'eau. Le ciel commençait à blanchir. Une odeur infecte, irritante, se propageait de plus en plus. L'aïeul sentit ses mains moites. Il suffisait que les rats changent de direction pour que l'aveugle, le pied de maïs et lui-même, ne puissent même plus songer à vivre en ce monde. Il le savait. Ils sont affamés au point d'être devenus fous. Les rats affamés mangent jusqu'aux oreilles, au nez des hommes. Il songea à courir prévenir l'aveugle, lui dire qu'il ne fallait surtout pas faire le moindre mouvement, le moindre bruit, mais il n'arriverait pas à temps. La marée noire des rats avançait, roulant sur elle-même comme une boule de brouillard. L'aïeul s'écarta promptement pour se dissimuler derrière un sophora, lequel était à peine plus épais que son bras. Les premiers rats étaient d'une grosseur incomparable. Leur pelage gris étincelait. Ils avaient des têtes de chat ou de belette. L'aïeul n'en avait encore jamais vu d'aussi gros. Il pensa qu'il s'agissait là des rois rats dont les ancêtres parlaient. Il vit leurs yeux verts et brillants, lançant des éclairs bleus. Semblables à des chevaux ailés, ils franchissaient à chaque bond plus d'un tiers de mètre. Et la poussière qu'ils soulevaient allait recouvrir le dos de la troupe derrière eux d'un manteau de feutre. Il eut envie de tousser, il se retint, pressant une main sur sa gorge. Le ciel s'éclaircissait, c'était l'heure de l'aube fraîche et pure, et l'azur s'écaillait de nuages blancs. Bien sûr, le soleil torride était à craindre de nouveau, il darderait des rayons plus acérés encore qu'avant. Sinon, les rats fuiraient-ils de la sorte? L'aïeul se dégagea de derrière l'arbre. Pas un rat ne lui faisait face. Il n'avait plus peur des hommes désormais, mais du ciel, du soleil. Ils avaient peur de la terrible sécheresse. L'homme resta immobile au bord de la route, à regarder les rats cavaler, poussant leurs cris rauques. Il entendait tomber des kakis mûrs. C'était la débandade de ceux qui restaient à la traîne. Il ne comprenait pas comment autant de rats avaient pu se réunir. Entassés les uns sur les autres, ils auraient formé une montagne. On aurait dit qu'ils avaient répondu à un signal pour se rassembler et partir vers le sud. Où allaient-ils au sud? Quelque part où il y avait du grain, de l'eau et pas de soleil? Pourpre et or. L'aïeul remarqua soudain que les yeux des rats étaient devenus rouges. Il les voyait comme autant de perles roulant sur le sol. Il vit des milliers et des milliers de rats courir autour du champ, puis plus rien. Ils avaient disparu en un clin d'œil. Le soleil se leva. Des poils gris ou noirs argentés dansaient dans ses rayons, des poils de rats qui ressemblaient à des chatons de saule. L'aïeul poussa un profond soupir, puis il descendit la pente. Dans le matin calme, il avait le pas lent, lourd, sans force. Arrivé à l'abri du pied de maïs, il vit l'aveugle fixer de ses orbites vides l'arête de la montagne. Des gouttes de sueur perlaient à la pointe de ses oreilles. L'aïeul lui demanda « Tu as peur ?» Le chien ne répondit pas, s'allongea mollement à ses pieds. L'aïeul dit « Est-ce qu'il va y avoir une terrible catastrophe ?» Le chien resta silencieux, le regard fixé sur la culture verdoyante. L'aïeul crut que son cœur s'arrêtait de battre. Sur les feuilles de maïs, de nombreuses taches blanches étaient apparues, pareilles à des grains de sésame. La chaleur et le manque d'eau avaient trop duré. Voilà pourquoi les mouchetures étaient apparues. Pourtant, jamais ce pied de maïs n'avait manqué d'eau. L'aïeul avait érigé un petit rempart de terre autour de la plante et chaque jour il versait de l'eau à l'intérieur. Il s'accroupit pour creuser un peu le sol brun à cet endroit. sous un doigt de croûte sèche, la terre était encore humide. Pressé dans la main, de l'eau s'en égouttait. Il en prit une poignée et se releva, comprit que les taches sur les feuilles n'étaient pas dues à la sécheresse, mais à l'odeur fétide que les rats dispensaient partout. De tous les engrais, les excréments de rats sont le plus puissant, pensa l'aïeul. Il va sans dire que leur odeur est également très puissante. Elle s'est répandue toute une nuit autour du maïs. Comment aurait-il pu ne pas en être souillé ? Il colla l'oreille sur une feuille, entendit le crissement sourd de la croissance des taches. Il se tourna pour inspirer un peu d'air et sentit de nouveau la puanteur noire des rats, prégnante tout autour, déversant son venin sur le maïs. Le plan va mourir. Il faut qu'il pleuve tout de suite pour que le maïs ne meure pas, que les effluves empoisonnées retombent, que la culture en soit lavée. Le chien sentit la panique de l'homme. L'aïeul dit « L'aveugle, reste ici à surveiller. Je dois retourner au village chercher de l'eau. » Il ne fit guère attention à la réaction du chien, chargea deux seaux sur la palanche et partit au village. Le village était tranquille, comme toujours. On n'y percevait pas le moindre souffle. Une couche dense d'excréments de rats recouvrait les rues. Chauffée par l'immuable soleil, les jointures des portes s'étaient encore élargies. L'aïeul ne se préoccupa plus de rien, sinon d'aller au puits récupérer le matelas ouaté. Mais alors qu'il allait le remonter, il le trouva bien léger au bout de la corde. On aurait dit qu'il n'y avait plus rien dans le puits. Il n'entendait plus non plus l'eau s'égoutter du matelas comme avant. Il regarda à l'intérieur du puits, blêmi, les deux mains raidies sur la poignée de la poulie. Après un long moment, il termina d'enrouler la corde. Il n'y avait plus de matelas. Il n'en restait qu'un morceau de tissu crevé de toutes parts, sur lequel gisaient des cadavres gonflés d'eau. Une dizaine d'entre eux retombèrent dans le puits. Le matelas avait été entièrement dévoré par des rats assoiffés. L'aïeul se mit en quête d'un autre matelas ou d'une couverture. Il voulut se rendre d'abord dans les maisons où il avait cherché du grain, mais il se contenta de marquer une halte devant chaque porte. Les rongeurs avaient mis à sac le village. Dans chaque demeure, malle, table, armoire, pied de lit, tout ce qui avait connu objet ou vêtements, tout avait été dévoré par les rats qui n'avaient laissé derrière eux que des trous pareils à ceux d'une fleur de tournesol évidée. Une odeur de bois clair, mêlée à la puanteur animale, emplissait les habitations, débordait dans les cours. L'aïeul ouvrit plus de 10 portes, mais ses mains restaient vides. Il émergea d'une ruelle, 3 perches de bambou à la main. Il les attacha ensemble, puis se rendit dans l'arrière-cour d'une maison, aux latrines, pour y chercher un petit bol de bois servant à ramasser les excréments. Dans les maisons, soufflets, planches à hacher, bols de bois ou de terre cuite, tous les ustensiles étaient fêlés ou cassés. Les rats y avaient mordu à pleines dents. Il fixa le bol au bout des perches et s'y reprit à 3 fois pour plonger la louche ainsi fabriquée dans le puits. Mais il ne tira guère d'eau. Il ne puisa que des rats morts. Il se pencha au-dessus du puits, laissant la lumière l'éclairer pour tenter d'en apercevoir l'intérieur. Il vit qu'il n'y avait plus d'eau au fond, mais un gros tas de corps, tel un gros tas de patates douces pourries au fond d'un silo. Quelques-uns, encore vivants, évoluaient sur les cadavres, sautaient sur les parois sans parvenir à monter très haut, puis retombaient, poussant des cris plaintifs dont l'écho se propageait à l'intérieur du puits, remontait du fond du gouffre. L'aïeul reprit sa palanche, ses seaux vides, et partit en direction de son champ.